L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
La semaine dernière, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l'État qui n'a pas, selon lui, suffisamment assuré la sécurité des Calédoniens en mai 2024. Un recours qui avait été déposé par la compagnie d'assurance Alliance. Et pour revenir sur ce sujet, vous recevez le président du COSODA.
Oui, Jean-Michel Calbat, bonjour.
Bonjour Jean-François Bodin.
Et merci d'avoir accepté notre invitation, effectivement, au lendemain de ce jugement qui a fait beaucoup parler parce que l'État, en quelque sorte, était condamné pour ne pas avoir assuré un certain nombre de points sécuritaires. Ce genre de procédure est un peu exceptionnel. Est-ce que vous avez été surpris déjà qu'une société d'assurance se retourne contre l'État ou est-ce que c'était dans l'air, finalement, quelque part ?
Ouais, c'était dans l'air parce que non, c'est pas exceptionnel. On avait déjà eu ce genre de recours contre l'État à l'occasion des émeutes de Naël. En métropole. Et donc c'est quelque chose qui, effectivement, était dans l'air. Alors nous, on a bien pris connaissance de cette décision rendue par le tribunal administratif. Mais pour le coup, ça, c'est plutôt exceptionnel, puisque le tribunal administratif, effectivement, a condamné l'État. Alors c'est vrai qu'au lendemain des émeutes, les assureurs avaient considéré que si les montants des dégâts étaient si élevés, c'était notamment parce que l'État, chargé du maintien de l'ordre, avait en effet manqué à ses obligations par économie de moyens, on va le dire comme ça. C'est donc, oui, une décision importante.
Alors, c'est une décision importante. Est-ce que, à votre connaissance, il y a d'autres dossiers ? Alors, est-ce que ça ouvre la porte à d'autres recours éventuels ? Ou est-ce que des sociétés d'assurance qui n'avaient pas forcément pensé se retourner contre l'État vont se dire, bah tiens, il y a peut-être effectivement là une responsabilité de l'État qui a déjà été engagée une fois, qui pourrait l'être sur d'autres dossiers ?
Alors, c'est une décision importante parce qu'elle ouvre aussi la voie à des victimes qui n'étaient pas assurées d'exercer des recours. Et donc c'est possible, puisque ce jugement permet de condamner l'État, en tout cas
en première instance.
Alors pour les compagnies d'assurance, non, Alliance a débuté, mais les autres compagnies se préparent déjà, sont en cours de constitution chacun de leur côté de dossiers qui vont suivre. Donc c'est juste une question de timing, mais on n'attendait pas, les compagnies n'attendaient pas qu'une première ait gagné pour enchaîner.
Il n'y a pas de procédure collective qui pourrait être lancée ?
Alors, chaque compagnie suit ses procédures, puisque a ses dossiers propres. Par contre, par rapport aux victimes qui n'étaient pas assurées, peut-être que là, effectivement, il y a une possibilité de class action, ou en tout cas d'action de groupe, pour effectivement faire valoir, finalement... indemnité.
Alors, vous l'avez rappelé, l'État a été condamné en première instance, c'est-à-dire que potentiellement, il peut faire appel, il a un délai de quelques semaines pour le faire. Est-ce que, selon vous, raisonnablement, l'État va faire appel ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la procédure va prendre encore beaucoup de temps avant d'être une nouvelle fois jugée ?
Mais oui, effectivement. Alors, il faut prendre du recul par rapport à cette première décision, car l'État a la possibilité, comme vous l'avez dit, de faire appel. Il a 2 mois pour le faire, 2 mois après avoir été notifié. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tel est le cas, nous rentrerons sans doute dans une procédure plus longue qu'on évalue à 3-5 ans, peut-être, avec tous les reports possibles et imaginables. Et l'affaire sera jugée, ça il faut bien l'avoir en tête, par la Cour d'appel de Paris, avec des magistrats métropolitains. Et les magistrats qui auront donc à se prononcer n'auront pas vécu directement ce que nous avons vécu, nous. N'ont pas forcément pris la mesure concrète également des impacts matériels et sociaux sur notre territoire. Et évidemment, ça pourrait influencer pas forcément favorablement leur perception des faits.
Et est-ce que dans 3 ou 5 ans aussi, si c'est la durée d'une procédure de cette nature, le paysage assurantiel aura aussi quelque part changé, parce qu'on sait qu'il y a la préparation d'un fonds souverain, enfin d'un fonds qui va être mis en place au niveau national contre les émeutes. Enfin, voilà, est-ce que le paysage aura changé dans 3 ou 5 ans par rapport à l'éventuelle condamnation en deuxième instance de l'État ?
Alors possiblement, puisque au cours du premier semestre de cette année, la Direction générale du Trésor et France Assureur ont travaillé sur un mécanisme de partage du risque entre l'État, les assureurs et les réassureurs privés. Mais il y avait plusieurs points de crispation, notamment le coût du dispositif pour les assurés. Mais on n'avait pas eu de nouvelles donc de ces travaux-là jusqu'alors. Et puis, après l'adoption de la partie recette du budget par l'Assemblée nationale, la Haute Assemblée examine aujourd'hui la seconde partie du texte qui inclut les crédits et les mesures législatives rattachées. Eh bien, c'est dans ce cadre, en fait, qu'un amendement gouvernemental a été déposé au Sénat le 8 décembre, donc c'est très récent, dans le cadre du projet de la loi de finances. Donc cet amendement, justement, réintroduit un mécanisme structurel de couverture des émeutes destiné à restaurer l'assurabilité d'un risque devenu difficile à porter, du risque émeute, hein, difficile à porter pour les assureurs en France métropolitaine comme dans les territoires ultramarins. Parce qu'il est évidemment étroitement lié à la doctrine de maintien de l'ordre.
Et ce fonds serait alimenté par qui alors ?
Alors, le modèle, il s'inspire de celui des catastrophes naturelles en métropole, puisque je vous rappelle que nous, nous sommes sur un territoire qui ne bénéficions pas, nous ne bénéficions pas des catastrophes naturelles, donc les événements naturels reposent sur l'assurance de chacun, donc c'est du privé. Donc, en tout cas, là, le modèle s'imposerait à nous et à tous, enfin, vraiment sur l'ensemble du territoire national, comme celui, enfin, à l'instar du dispositif catastrophe naturelle. Donc, c'est une mutualisation, là, nationale, une surprime au contrat dédié, et puis des clauses type obligatoires, évidemment, dans les contrats. La surprime au contrat concernerait tous les contrats d'assurance dommages privés et professionnels.
– Et finalement, ce fonds aurait de quoi garantir aux assurances les moyens de payer en cas d'émeute ?–
Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il serait géré comme dans le même dispositif que les catastrophes naturelles, c'est-à-dire que l'événement devra être reconnu par une commission comme étant effectivement l'événement rentrant dans le cadre des émeutes et mouvements populaires. Et effectivement, donc, les indemnités. Donc, les assureurs auraient, bien sûr, à gérer la sinistralité, les dossiers, et l'État, donc, l'État piocherait dans ce fonds pour indemniser les victimes.
Alors, Jean-Michel Calbin, on va en profiter pour. On est un an et huit mois après les émeutes de mai 2024 pour faire un point sur le travail des assurances. Certains trouvent que ça a été bien géré rapidement, d'autres que les délais sont trop longs de remboursement. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, les assureurs? Par rapport à ces émeutes de 2024, la prise en charge des indemnités se représente combien aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, nous avons un coût estimatif de 103 milliards de francs.
Pour l'ensemble des dégâts ?
Voilà, enfin, pour ceux qui sont pris en charge par les assureurs. Puisque, donc, globalement, l'ensemble des dégâts, c'était 240 milliards de francs. Là, on a 3600 sinistres qui rentrent dans le cadre de l'assurance privée, qui sont pris en charge par les assureurs, et ça représente 103 milliards de francs. Et 95% de cette charge concerne les entreprises. Au niveau des entreprises, c'est évidemment, vu notre économie, c'est ce qu'on regarde à la loupe. Ça a extrêmement bien avancé puisque aujourd'hui, 80% de la charge sinistre que les assureurs devaient aux entreprises ou doivent aux entreprises, eh bien, a été réglée. Ça concerne les bâtiments, ça concerne le matériel, les marchandises, etc. Donc ça représente un peu plus de 60 milliards de francs.
Et les 20% qui restent, alors c'est des dossiers en contentieux, ce sont des dossiers plus compliqués que les autres ?
Alors il y a de tout. Il y a déjà l'indemnité différée. Puisque, lorsque l'entreprise est entièrement reconstruite, eh bien là, on va venir expertiser le bien et dire « Ok, c'est reconstruit, et donc on va payer le restant dû », ce qui correspond à la vétusté en fait, du bâtiment au départ. Donc c'est la valeur à neuf. Il y a effectivement, peu ou prou, il peut y avoir des contentieux, bien sûr. Il peut y avoir également des suspicions de fraude. Parce que certains ont essayé de profiter du chaos pour finalement se faire payer des choses qui ne devraient pas être payées. Donc ça prend du temps. Et puis nous avons, alors ça c'est un peu en dehors de la charge sinistre qu'on vient d'évoquer, nous avons également les pertes d'exploitation qui viendront ensuite, effectivement, une fois que l'entreprise a repris son activité, hein, dans les trois mois après sa reprise d'activité, eh bien il y a un calcul de la perte d'exploitation qui est fait. Et ça représente environ 20 milliards de francs à venir sur les pertes d'exploitation.
– Est-ce qu'on peut dire que d'ici deux ans après les émeutes, globalement, les choses seront réglées sur l'ensemble des dossiers, quasiment ?–
Globalement, là, on est à un an et demi. Il faut aussi que les entreprises, pour l'instant, certains chefs d'entreprise attendent encore, malheureusement, c'est-à-dire qu'ils ont touché l'indemnité directe ou en tout cas remboursé auprès de leur banque, effectivement, les crédits qu'ils avaient ou les financements qu'ils avaient sur les entreprises, et donc attendent finalement pour repartir le calendrier institutionnel, voir comment le premier semestre 2026 va se passer, etc. Donc je pense que ça débordera les deux ans. On avait eu le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait demandé donc aux assureurs une rallonge hein, de délai puisque contractuellement c'est 2 ans et donc cette rallonge de délai avait été accordée pour 3 années. J'ose espérer que effectivement dans 3 ans on sera au clair sur tout.
Est-ce que les assurances ont vraiment joué le jeu sur ce dossier? Vous savez comme moi les critiques qui peuvent exister sur les réseaux sociaux en disant elles n'ont pas fait leur travail, elles en ont profité pour se sucrer au passage. Enfin voilà, il y a un certain nombre de commentaires négatifs qui circulent sur les assurances. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vous avez l'impression que globalement elles ont joué leur travail, elles ont joué leur rôle par rapport aux émeutes?
Bah, évidemment, je vais défendre la profession. Bien
vous
sûr,
pas fait, on aurait été très inquiet.
Mais... Non, mais les chiffres que je présente aujourd'hui, avec 80% de la charge des entreprises qui est réglée au bout d'un an et demi, vu l'ampleur des dégâts, enfin, on voit que les sociétés d'assurance ont effectivement joué le jeu. De toute façon, les sociétés d'assurance n'ont aucun intérêt à faire traîner les provisions qu'elles ont, parce que ça touche à leur solvabilité. C'est-à-dire que ça fait augmenter leur risque opérationnel, et l'autorité de contrôle prudentiel regarde bien évidemment la solvabilité des entreprises d'assurance. Donc plus on traîne des provisions longtemps, et plus ça nous coûte cher à l'assurance, parce que c'est des frais de gestion, c'est des frais de personnel. Et puis, au niveau de la solvabilité des compagnies, eh bien, ça a un impact qui n'est pas anodin. Donc, voilà. Donc, oui, elles ont tout intérêt à régler rapidement.
Alors, est-ce que ça, Jean-Michel Calbat, est-ce que ce qui s'est passé en mai 2024 a changé aussi, le paysage des assurances en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il y a eu des mouvements parmi les assureurs? Certains qui ne veulent plus s'engager sur un certain nombre de dossiers. Il y a aussi la question des nouveaux contrats qui sont en cours de négociation avec des augmentations forcément de tarifs. Tout ça, ça reste vraiment le plus préoccupant aujourd'hui pour vous?
Oui, c'est préoccupant parce que... quand on fait du business dans du commerce dans un marché normal, quand il y a un concurrent qui s'en va, on se frotte les mains. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que nous faisons face à des engagements qui sont trop importants. Et quand on a des engagements, effectivement, de compagnies d'assurance qui disent... Enfin, certaines sont parties, d'autres disent « nous, on ne va plus faire de professionnels. »
On ne fait que des particuliers.
Et donc, le marché est ouvert pour ceux qui restent, sauf que ceux qui restent ne sont pas nombreux. Et donc, on se retrouve confronté à des zones de ce qu'on appelle en assurance des zones de conflagration. C'est des zones d'accumulation de risques qui sont difficilement supportables pour les quelques-uns qui restent. Donc, ça nécessite effectivement de veiller constamment à à faire du un pour un ou dire là j'ai une cessation d'activité donc je vais pouvoir reprendre effectivement une autre accumulation de risques, etc. C'est compliqué parce que si on touche nos plafonds d'accumulation de risques, ça veut dire qu'il faut qu'on rachète de la capacité de réassurance. Et donc, sur les tranches supérieures, ça coûte extrêmement cher. Et donc, des fois, quand on est en dépassement, on paye la compagnie va payer une somme de réassurance beaucoup plus importante qu'elle va devoir forcément répercuter dans ses tarifs.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de nouveaux contrats qui sont en augmentation aujourd'hui?
Alors, c'est une des raisons parce que, effectivement, les contrats de réassurance ont fait l'objet d'une surprime sur 2025. Et elles le seront encore en 2026. Je sais de quoi je parle, puisque dans ma compagnie, c'est le cas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse avec et qu'on ne sait pas forcément combien de temps ça va durer encore. Donc c'est des négociations assez âpres hein, avec la réassurance. Mais effectivement, et puis c'est des surprimes qui ne sont pas anodines, puisque c'est des surprimes de 25% hein, par rapport à ce qui était payé avant. Donc forcément, il y a une répercussion sur nos tarifs.
Est-ce qu'on peut dire, Jean-Michel Calbat, qu'il y aurait eu dans le monde de l'assurance un avant et un après mai 2024
hein? Oui, ne serait-ce que si la disposition va jusqu'au bout de la garantie émeute et mouvement populaire, parce que ça, c'est un dossier qui est sur la table de Bercy depuis un long moment, déjà depuis les Gilets jaunes, juste après les épisodes des Gilets jaunes. Donc si ça aboutit, mais je prends avec des pincettes, hein, parce que ça doit passer le Parlement, enfin le Sénat, le Parlement,
la commission mixte,
il faut que le budget soit voté, et derrière, c'est soumis à autorisation de la Commission européenne.
Donc,
Le parcours est encore long, c'est pas pour demain. Mais ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, qu'il faut changer ce modèle-là, et ça, c'est effectivement... c'était important parce que ça fait des années et des années que les assureurs tirent l'alarme sur ce modèle-là. Il faut se rappeler que les émeutes et mouvements populaires est un risque qui est exclu du code des assurances, hein, ne l'oublions pas. Donc il était pris par dérogation, mais normalement c'est effectivement, comme les guerres étrangères et comme le terrorisme, c'est pas aux assureurs à payer ça, quoi.
Jean-Michel Calbal, le nouveau président du COSODA, puisque vous avez pris vos fonctions il y a une quinzaine de jours maintenant.
C'est ça.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci de votre invitation.